RFJ Info.
Le journal d'Alexandre Rosset.
Bonjour, les habitants de l'Ajou accusent le coup. Le restaurant de la Chevauchée est parti en fumée cette nuit. Le bâtiment a été entièrement détruit par les flammes. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Une des personnes blessées après l'avalanche d'hier à Crans-Montana est décédée. Sur le terrain, les recherches ont été interrompues ce matin. Les secours n'ont pas trouvé d'autres victimes. Plusieurs grandes marques vont bouder le salon de l'auto cette année. Jaguar, Ford ou encore Hyundai ne participeront pas à la 89e édition de la manifestation. Elle se tient du 7 au 17 mars et les organisateurs restent toutefois confiants. Pas de changement du côté de la météo. Le temps restera plutôt bien ensoleillé cet après-midi avec des températures douces pour la saison. Des conditions qui devraient nous accompagner en tout cas jusqu'à la fin du mois. L'Ajou a donc été secoué cette nuit par un important incendie. Le restaurant de la Chevauchée, lieu de rencontre mythique du village, a été complètement ravagé par les flammes pour une raison qui reste encore indéterminée. Le sinistre n'a heureusement fait aucun blessé. Un locataire était absent alors que l'autre a pu sortir par ses propres moyens. Une quarantaine de pompiers sont intervenus sur les lieux. Ils sont parvenus à maîtriser le feu vers 6 heures. Et Cyprien Louvi, vous avez passé la matinée sur place.
« Il y a le bistrot qui brûle », la phrase a fait le tour du village avant l'aurore, aujourd'hui à l'Ajou. En matinée, l'odeur de l'incendie se sentait jusqu'à Saucy, preuve de l'ampleur du sinistre. Sur place, les Djoulais ont accouru avec timidité, stupéfaction, émotion, pour voir les restes d'un bâtiment qui leur est cher, construit en 1852. Les pompiers du SIS La Courtine sont toujours sur place. Le récit du chef d'intervention, Olivier Gerber.
Quand on est arrivé sur place, on nous a dit qu'il y a peut-être une personne qui est encore dans le bâtiment. Donc la première chose qu'on a fait, on a été contrôlé de voir si la personne était dans sa chambre ou pas.
Par chance, il n'y a au final personne donc, dans le bâtiment. Comment s'est déroulée l'intervention des pompiers ?
Alors l'intervention était assez difficile parce qu'il y avait énormément de fumée. L'engagement des porteurs n'était pas possible à l'intérieur. On a dû appeler le centre de renfort de Seigneur-Logier et de Montfaucon. Tremblant était déjà appelé, donc au total on était une quarantaine de personnes pour contenir le feu quoi, et protéger la ferme à côté.
Le feu est maîtrisé depuis 6 heures du matin, là il est déjà plus de 10 heures, mais la fumée est encore impressionnante, ça peut durer encore longtemps?
Ça peut durer encore un moment parce qu'il y a encore des foyers à quelques endroits qu'on n'arrive pas à atteindre, donc c'est très difficile à dire combien de temps encore ça durera.
Parmi les personnes qui sont arrivées sur les lieux rapidement, le nouveau maire, Samuel Gerber.
Une grande surprise, se faire réveiller toujours au milieu de la nuit. Après, soulagé assez rapidement quand on a constaté qu'il n'y avait personne dans le bâtiment. Après, voilà, le feu était tellement puissant que malgré tous les pompiers, tout le dévouement qui a été fait, on n'a rien pu faire pour protéger ce bâtiment.
Ça fait quoi quand on est un habitant de l'Ajou depuis toujours de voir ce bâtiment mythique partir en fumée ?
Ouais, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de souvenirs pour énormément de personnes. C'est vrai que ça fait très mal au cœur. Toutes les fêtes qu'il y a eu, c'était vraiment un lieu de rencontre.
Lieu de rencontre intergénérationnel, jeunes et moins jeunes, hommes, femmes, c'est tout le village qui se réunissait fréquemment dans le bâtiment, comme le racontent Tom et Numa, deux jeunes rencontrés ce matin devant le bistrot.
Ça fait un peu bizarre, quoi. Avec tout le temps qu'on a passé là-dedans, d'avoir partir en fumée comme ça... Ça fait un peu tout bizarre, quoi.
Ouais, c'est quand même quelque chose, parce que c'est là qu'on voyait un peu tous les gens du village. Il y avait à peu près tout le monde qui se réunissait là le vendredi, souvent. Puis voilà, je sais pas où ils veulent aller maintenant. Hein.
L'interrogation était sur de nombreuses lèvres ce matin. Où irons-nous boire notre café, faire l'apéro ? L'une des figures du village et de ce restaurant, Andrea Folter, était aussi sous le choc ce matin.
Ben, ça fait toujours un peu mal au cœur, quoi. C'était un peu la rencontre du village. C'était tous les matins à 9h un petit peu passer en revue ce qui se passe dans le village, plus un petit peu embêté deux, trois personnes habituées aussi à se retrouver, quoi.
Il y avait quand même quelque chose de particulier dans ce bistrot. Il y avait un côté intergénérationnel un peu unique, non?
Alors, ce qui était particulier à l'Ajou, c'est que toutes les générations étaient à la grande table, quoi. Donc il n'y avait pas celui qui avait 80, il venait à la grande table, ils se faisaient chicaner comme celui qui en avait 16, quoi. Tout le monde ramassait un peu sa vanne, quoi.
C'était pas possible d'entrer dans ce bistrot sans en prendre une, hein?
Je pense pas, non. Tout celui qui venait à la grande table, il ramassait sa petite secouée, quoi.
Garder le sourire malgré le choc, le leitmotiv des habitants de l'Ajou, car si leur bistrot est parti en fumée, les souvenirs qu'il a créés resteront toujours dans leur mémoire, la mémoire des générations de Djoulais qui ont franchi sa porte.
Merci Cyprien, et la route en direction du Prédam est toujours fermée à la circulation. Une déviation a été mise en place par Bellet. L'avalanche de Grand Montana a fait une victime. Grièvement blessé hier, un jeune homme est décédé ce matin. Un patrouilleur français de 34 ans, ce père de deux enfants, était occupé au sauvetage d'un blessé au milieu de la piste lorsque l'avalanche l'a emporté. Sur place, les recherches ont été interrompues après avoir été maintenues toute la nuit. Mais ces fouilles sont appelées à reprendre si la situation l'exige, précisent les forces de l'ordre. Aucune disparition n'a pour l'heure été signalée. L'avalanche, on le rappelle, a traversé la piste à 14h15 sur 400 mètres. Sans bruit, malgré son volume, elle a surpris tout le monde. Elle se pose désormais la question de la sécurité des lieux au moment du drame. Le président des remontées mécaniques de Grand Montana, Philippe Magistretti.
Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. C'est le ministère public et la police qui ont la main sur ce sujet. Tout ce qui est technique, tout ce qui est expert, c'est eux qui le gèrent. Nous avons la conscience tranquille, mais ce sera à eux de décider de la marche à suivre. La chose importante, c'est que demain devra être un jour ordinaire. Demain, nous devons aller travailler. Et demain, il faut qu'on continue à servir notre client et à faire notre travail. Ce sont des moments très difficiles.
Des moments très difficiles suite à ce drame qui nécessite une enquête. Le ministère public l'a ouverte immédiatement, hier déjà, car en tout état de cause, une avalanche sur les pistes implique une responsabilité pour le domaine skiable. Carole Sepet, procureur du canton du Valais.
En fait, c'est simplement lorsqu'on met à disposition un domaine skiable, la société qui met à disposition doit garantir des conditions de sécurité. Dans l'État, il n'y a aucune hypothèse qui est privilégiée par rapport à une autre. Et puis c'est pour ça que, de concert avec la police cantonale, on met en route des auditions des personnes qui étaient sur place, une expertise névrologique, on a fixé les lieux par rapport aux conditions justement climatiques. Après, on verra ce qu'il en ressortira. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment aucune hypothèse qui est privilégiée l'une par rapport à une autre, quoi.
Un sujet réalisé par nos confrères de Rhône FM. À Bâle, le trafic ferroviaire a repris ce matin entre la gare CFF et celle de la Deutsche Bahn, 3 jours après le déraillement d'un train allemand. Les CFF indiquent que les réparations se sont déroulées plus rapidement que prévu. Depuis dimanche, la plupart des liaisons internationales passant par Bâle avaient dû être supprimées. Les Gilets jaunes investissent la place des Nations à Genève. Plusieurs centaines de manifestants ont entamé ce matin un rassemblement devant l'ONU. Ils entendent crier leur désarroi face au gouvernement français et à l'attitude des forces de sécurité. Il y a 25 ans, les Suisses décidaient de faire passer les marchandises par le rail. Le 20 février 1994, contre l'avis du Conseil fédéral et du Parlement, près de 52% des citoyens approuvaient l'initiative pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit. Il s'agissait de protéger les êtres humains, les animaux, les plantes et leurs espaces vitaux des nuisances causées par les poids lourds. Les romands avaient toutefois refusé le texte. Isabelle Pasquier, coordinatrice de l'initiative des Alpes pour la Suisse romande.
94, c'était 2 ans après le non à l'espace économique européen. Et c'est vrai qu'en Suisse romande, il y avait cette sensibilité, cette crainte à l'époque qu'on donne de nouveau un signal négatif vis-à-vis de l'Union européenne. Et en fait, ce n'est pas dans ce sens-là que les choses se sont appliquées, puisque ce n'est pas les camions étrangers qui sont bloqués, mais c'est vraiment une réduction qui vise de manière globale le trafic de transit. Et c'est quelque chose qui a pu être négocié et compris par l'Union européenne.
L'association Initiative des Alpes, qui continue de se mobiliser pour ce transfert, fait-elle cette année ses 30 ans. Elle compte près de 50 000 membres. Le Salon de l'Auto devra faire avec de grands absents cette année. La 89e édition de la manifestation se déroulera du 7 au 17 mars à Palexpo à Genève. Et si près de 180 exposants sont annoncés, certaines grandes marques manqueront à l'appel, à l'instar de Jaguar, Ford, Volvo ou encore Hyundai. Nos confrères de Radiolac ont demandé au président du Salon si ces absences suscitaient des inquiétudes. La réponse de Maurice Tourétigny.
Des préoccupations, pas des inquiétudes, des préoccupations, c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu, entre guillemets, remplacer ces marques par 34 nouveaux exposants qui sont venus, ils sont des Chinois, des Russes ou des Suisses, et je crois qu'il faut vivre avec des annulations, on aura ces prochaines années un certain nombre d'annulations, mais je crois qu'il faut se renouveler, essayer d'attirer d'autres marques. Vous savez que Genève est très connue pour les concept cars, les carrossiers, ces carrossiers qu'on mélange avec les voitures traditionnelles, les marques traditionnelles, et ça, c'est une des spécificités de Genève.
et le Salon de l'Auto qui est devenu le GIMS, Geneva International Motor Show, attend plus de 650 000 visiteurs entre le 7 et le 17 mars. Retour dans la région avec la bourse Feldorio 2018 qui a été octroyée à une prévotoise. Myriam Valli a reçu la distinction de la part de la Commission intercantonale de littérature du canton de Berne et de la République et canton du Jura. Elle a séduit le jury par la qualité de son écriture et l'ambition de son projet. Dotée de 15 000 francs, la bourse récompense un projet littéraire et est remise tous les deux ans. Myriam Valli consacrera ainsi une partie de l'année à la rédaction d'un roman qui traitera notamment de généalogie et d'héritage. L'expertise d'un boucher jurassien à Paris, Jacques Neuschwander, prendra part au Salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes samedi dans la capitale française. Il s'y rendra en tant que jury pour le concours général agricole, une compétition qui se tient en marge du salon et sert de vitrine aux produits et au savoir-faire français. Jacques Neuschwander a été boucher pendant 30 ans à Courgenay. Il sera jury dans la catégorie charcuterie froide. Mais comment un artisan suisse peut-il se retrouver au beau milieu d'un concours parisien, Jacques Neuschwander?
Je fais partie du membre de jury avec environ 1000 autres personnes par ma participation à différents concours par l'Union professionnelle suisse de la viande, par BioSuisse, les produits des terroirs. J'ai eu l'occasion de lier certaines connaissances qui m'ont demandé si je voulais bien participer à ce concours de la foire agricole.
Et donc là, vous allez être membre du jury, vous serez aux côtés de bouchers d'autres nationalités, d'autres pays qui viennent du monde entier, j'imagine. Il y a des échanges entre vous, comment ça se passe?
Effectivement, nous sommes 6 à 7 personnes par table. Les échanges sont très constructifs. L'année passée, j'étais avec une personne spécialiste des viandes de bœuf d'Uruguay. C'est toujours très intéressant.
Qu'est-ce qu'on peut apprendre, par exemple?
On peut apprendre la valeur qu'on donne à certains produits par leur affouragement, par leur façon de s'occuper de ces bêtes, de les nourrir et ensuite de les travailler.
Des propos recueillis par Thomas Nagy.
RFJ, il est 12h28.
Sport. Roger Federer va faire son retour sur la terre battue. Le Balois disputera le Masters 1000 de Madrid début mai. Il n'a plus joué sur cette surface depuis 2 ans. Roger Federer s'est imposé à 3 reprises dans la capitale espagnole. Les affiches des demi-finales des play-offs de hockey sur glace sont connues en première ligue. Le HC Franche-Montagne sera opposé à Adelboden. Les Francs-Montagnards ont remporté leurs 2 duels face aux Bernois cette saison. Le premier acte se jouera samedi à 17h15 à Seignelay-Gier. Saint-Imier jouera de son côté la première demi-finale de première ligue de son histoire face à Lys, vainqueur de la saison régulière. Les Bats et les Bernois ont remporté 1 duel chacun cette saison. Le premier acte aura lieu samedi à Lys. L'heure du match n'est pas encore connue. Les championnats du monde de ski nordique s'ouvrent aujourd'hui à Seefeld en Autriche. Dario Colonia portera sur ses épaules tous les espoirs de la délégation suisse. Le fondeur grison de 33 ans n'a pas paru en grande forme cet hiver. L'analyse de Marcel Neuschwander.
À 33 ans, Dario Colonia commence à faire figure de vétéran. Mais le quadruple champion olympique grison constitue toujours la principale, pour ne pas dire la seule chance de médaille des représentants de Swiss Ski à Seefeld. Dario Colonia débarque toutefois dans la station autrichienne sans véritable course de référence cet hiver. Il a obtenu son meilleur résultat début décembre à Lillehammer. Il s'était classé 4e du 15 km en skating. Médaille ou pas, Dario Colonia reste toutefois un athlète au potentiel d'exception, capable de se sublimer le jour J. Sans rentrer dans les détails, les 8 autres fondeurs suisses sélectionnés peuvent prétendre à des top 15, ce qui est déjà pas si mal. La délégation des fondeuses suisses, elle, se limite à 4 noms. Nadine Fendrich et Lorian van den Graaf peuvent briller en sprint. Après un hiver en demi-teinte, la bernoise Nathalie von Siebenthal espère, elle, sortir de l'ombre en Autriche. En soi ski, Simon Hamann évoluera sans pression. À 37 ans, le quadruple champion olympique a cédé son rôle de leader à un vaudois de 14 ans, son cadet, Kylian Peyer. Cette saison, le natif de la vallée de Joux a terminé à 5 reprises dans les 10 premiers en Coupe du Monde. Kylian Peyer paraît toutefois encore trop tendre pour briguer une place sur le podium.
Les sprints messieurs et dames ouvriront les championnats du monde de ski nordique demain dès midi dans la station autrichienne de Seefeld. Et c'est la fin de cette édition, je vous souhaite un bel après-midi.
C'est un soleil généreux dont nous bénéficions aujourd'hui en toute région, un soleil qui ne sera pas dérangé par l'arrivée de quelques voiles brumeux durant l'après-midi. Le temps restera sec selon Météo News et les températures sont assorties à ce magnifique temps puisqu'elles sont plus que douces. Il fait actuellement 11 degrés à Moutier de Lémont et Porrentruy et 9 du côté de Seignelégier. Le temps va continuer d'être beau, les conditions vont persister en cette fin de semaine, il va falloir en profiter.